9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. D'autant plus que ce matin, je reçois la psychologue qui respire. Bonjour Isabelle Métainier.
Bonjour Philippe.
Alors la psychologue qui respire, c'est vous qui vous baptisez comme ça ?
Oui, parce que depuis que j'enseigne le yoga et la méditation, j'enseigne aussi aux personnes que je reçois, que ce soit en accompagnement un peu plus psychologique ou en coaching, à respirer, que la respiration, parfois il suffit juste de parler moins vite et respirer et faire un peu de yoga, de méditer. Et déjà, on y voit plus clair.
Vous publiez, et si c'était la fatigue mentale, point d'interrogation, la reconnaître et savoir agir pour retrouver l'envie de vivre, aux éditions Robert Laffont. La fatigue, dites-vous, c'est un mot fourre-tout, mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se fatiguer alors qu'on vit dans une... de dire qu'on est fatigué alors qu'on vit dans une société de loisirs, que nos grands-parents, eux, ils étaient vraiment fatigués. Mais nous, est-ce qu'on est vraiment fatigué ?
C'est bien ça le problème, c'est que aujourd'hui il faut tenir. Je me souviens de ce professeur d'histoire géo qui me disait, Isabelle, il faut tenir. En fait, il faut tellement tenir qu'il y a une explosion de burn-out, parce qu'en fait on a appris à minimiser les signaux corporels en se disant c'est pas grave, il faut absolument que je continue, ça va bientôt se terminer. Et en fait on explose ou on implose selon. Et en fait, la fatigue mentale, c'est bien plus, insidieux que, ouais. que la fatigue physique, qui elle peut nous faire mal. La fatigue mentale, juste, elle nous pompe de l'énergie et on essaye encore et encore de penser clairement. On essaye toujours de tenir, de faire plus, sans s'écouter.
Elle est énergivore.
Oui.
Ça part de votre observation au cabinet.
Ouais. Hein,
qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui dans votre cabinet que vous n'entendiez pas il y a 10 ans, par exemple ?
Alors, déjà, je trouve que tout a commencé il y a justement une dizaine d'années par cette accumulation de gens en souffrance, en burn-out, en épuisement de plus en plus, et qui me disaient, mais non, des gens nerveux, agressifs, qui ne s'en rendaient pas compte et qui me disent, enfin moi je le voyais de plus en plus, des gens fatigués, épuisés et voulant des recettes rapides pour aller mieux. Alors qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'était très différent. Donc j'ai commencé déjà à me poser des questions, et moi j'ai beaucoup de gens en formation où je voyais ça aussi. Et puis depuis quelques
Quand
années...
Quand vous dites en formation, c'est-à-dire que vous formez des gens en fait.
Oui, je formais des personnes. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que tout s'accélère, et tout s'accélère tellement qu'il n'y a même plus de place, ou de moins en moins de place, à la réflexion, à l'introspection, à la lenteur, à la respiration. Et parfois, il suffit justement de respirer, de s'apaiser pour se rendre compte. Enfin, voilà, c'est un tout. On est fatigué, notre esprit est tendu. Donc, on respire, notre corps se détend et on, voilà, on a besoin d'espace, on a besoin de temps. Et aujourd'hui, on n'a plus de temps. Avec l'accélération d'Internet.
Si. On a plus de temps, en fait. On a plus de temps parce que, regardez, on travaille moins. On fait plus que 35 heures par semaine. En plus, on a des RTT. On a des week-ends qui commencent le jeudi. Mais on a plus de temps.
Oui, mais en fait, comme dit Vincent de Gaulle-Jacques, qui est un grand chercheur en psychologie sociale, il dit on a gagné le temps. On a le droit de travailler 24 heures sur 24 si on en a envie. Donc en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps connecté. Donc si on a envie, on peut se brancher sur nos mails, mais on peut ne pas le faire. Mais en même temps, si on le fait pas, on est mal vu. Donc comme on est des animaux grégaires, on a besoin aussi de s'intégrer, de se faire bien voir et de montrer notre résistance. Donc en fait, tout ça s'en mêle. Et en fait, on a beaucoup moins de temps qu'avant. Parce que aujourd'hui, on nous fait aussi utiliser notre temps de loisir pour travailler, pour enrichir des entreprises. Par exemple, dans mon livre, je cite l'exemple des boarding pass. Vous devez imprimer votre boarding pass.
Donc, ça, c'est pour ceux qui prennent l'avion ou le train.
Voilà, ou le train, parce que vous devez aussi... alors, pour votre billet, alors maintenant, il y a des petites cartes, mais voilà, vous devez imprimer votre boarding pass. Donc, du coup, il y a plein de questions qui s'ensuivent. Est-ce que mon imprimante marche ? Ah, est-ce que j'ai assez de papier ? Non, j'ai plus assez de papier. Bon, donc il faut peut-être que j'aille en chercher, mais quand je dois prendre l'avion tel jour, enfin, ça devient très compliqué. Et tout, voyez, rentrer son mot de passe, ah bah j'ai oublié mon mot de passe, zut, comment je fais, ah ma box elle tombe en panne, faut que je la réétaille. En fait, c'est des opérations comme ça, mais ça nous prend la tête. Et ça nous prend notre énergie.
Ouais.
Et ça, bon, y a plein de choses que je fais qui ne m'amusent pas du tout sur mon temps de loisir. Ben, tout ce que je viens de vous dire. Je suis pas la seule.
Oui, quand vous allez aujourd'hui à l'hypermarché, vous pesez vous-même.
Voilà, on pèse nous-mêmes nos fruits et légumes. Voilà, on bosse. On bosse pour beaucoup d'entreprises en fait.
Alors moi, j'aimerais essayer de comprendre avec vous ce que ça veut dire, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent je suis fatigué, je suis épuisé. Alors qu'est-ce que vous faites comme différence entre une bonne fatigue physique, voyez, et la fatigue mentale? Est-ce qu'il y aurait une bonne, on va dire, et une mauvaise fatigue?
Alors, oui, on peut le dire. On sait tous instinctivement ce que c'est qu'une bonne fatigue. En fait, tout dépend de ce qu'on a fait. Si on a fait du sport, si on a eu des relations très intimes, satisfaisantes, on a fait des choses qui nous plaisent, on est fatigué, ben, une bonne nuit de sommeil, on va mieux. Mais si on n'a rien fait, si on est un peu, je sais pas, on est un petit peu anxieux, on est préoccupé, et on a plein de questions dans la tête. Alors, la première chose, c'est est-ce qu'on se rend compte des questions qu'on a dans la tête? Parce qu'on a des questions sans arrêt dans notre tête. Donc, déjà, si on ne s'en rend pas compte, ça nous fatigue déjà sans qu'on le sache. Et si on met à jour ces questions et qu'on les tourne en boucle, et puis on est préoccupé par mille choses, notre cerveau, il ne se repose jamais. À ce moment-là, ça nous pompe et on a du mal à se concentrer, on devient irritable. Émotionnellement, on est moins disponible. C'est tout ça, la fatigue mentale.
Alors, ce que j'aime dans votre livre, c'est que vous partez à la conquête de toutes ces nouvelles fatigues mentales. Parce qu'il y en a plein.
Il y en a plein.
Il n'y a pas qu'une nouvelle fatigue mentale. Hein. Tout le monde peut s'y reconnaître un petit peu en fonction de son activité ou en fonction de son tempérament, d'ailleurs. Hein.
Mais ce qu'il y a, c'est que l'accumulation, c'est comme tout. Hein. Vous avez une pièce, vous accumulez plein de choses dans cette pièce. À un moment donné, il va falloir la vider si vous voulez y voir plus clair. C'est exactement pareil pour notre cerveau. À force d'accumuler les sujets de préoccupation multiples et variés, ne serait-ce qu'au travail où la réduction des coûts fait que les postes se raréfient. Et donc, il y a une personne qui va tenir 2, 3, 4 postes, jusqu'à 5 postes, j'ai vu. Et elle a beau alerter ses hiérarchies. Vous voyez, tout le monde est dans un bain indéfini et c'est très difficile d'y voir clair. Donc tout le monde essaye de faire un petit peu tout, de faire bonne figure. Et puis il n'y a pas que le travail, il y a aussi la vie privée, la charge mentale des femmes, se préoccuper des enfants qui eux-mêmes sont sur leurs écrans. Enfin, vous voyez, c'est un mode de vie qui finalement aujourd'hui nous pompe et nous insatisfait.
Alors, une des dernières fatigues qui est arrivée, c'est la fatigue pandémique.
Oui.
Hein, elle est apparue en 2020. Hein. Alors, c'est quoi la fatigue pandémique, par exemple?
La fatigue pandémique, c'est le fait de se sentir aussi écrasé. Vous voyez, écrasé par le poids. Alors, est-ce qu'on va être confiné? Qu'est-ce qui se passe? Des multiples questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous disent dans les médias? Mais t'as vu, là, ils nous disent l'inverse. Mais est-ce que c'est vrai? On s'est pris la tête pendant un an et demi, on peut encore continuer à se l'apprendre, mais il y a aussi, c'était très anxiogène, tout ce qu'on a vécu, l'absence de liberté, l'absence de visibilité, l'absence de compréhension véritable de ce qui se passe, nous a littéralement épuisés. Aujourd'hui, fin 2021, ou en tout cas dernier trimestre 2021, je suis stupéfaite de voir, d'entendre à quel point les gens, mais tous, tout le monde me dit, oh, je suis épuisée, j'ai pas du tout envie de travailler. Les gens n'ont pas envie de travailler, ils sont fatigués.
Terme déposé par l'OMS hein, en 2020. Alors il y a beaucoup de fatigue. J'ai appris plein de choses. Par exemple, il y a la fatigue de l'absence de sens.
Oui.
C'est quoi la fatigue de l'absence de sens?
Mais quand on fait des choses qui n'ont pas de sens, je sais pas, notamment, je crois que je cite aussi, alors j'aime beaucoup les ouvrages de Sébastien Boller, hein, que je cite dans mon livre. Il cite.
Je me permets de vous interrompre, et moi aussi.
Ouais.
Donc, le bug humain, par exemple. Humain,
voilà. Oui, un livre essentiel.
Essentiel.
Et notamment, l'absurdité, c'est un exemple. Hein. Vous regardez les informations le lundi et le journaliste se réjouit et vous dit écoutez, c'est formidable, nous avons vendu X avions à la Chine et donc nous avons gagné un marché de plusieurs milliards. Alors oui, on est content. Et le lendemain, il tire une tête de triste et il dit écoutez, le réchauffement climatique nous rattrape et bientôt, et ça c'est notamment à cause des avions, eh bien, nous ne pourrons plus respirer. Là, on se dit, ah bah oui, zut. Et en fait, on fait le yo-yo comme ça, mais on fait pas le lien, vous voyez, entre les informations. Mmh. Et donc, il y a un jour, on se réjouit, un jour, on s'attriste. Et en fait, tout ça, ça n'a pas de sens. Et je cite aussi Christiane Singer, une grande écrivaine que j'aime beaucoup, qui notamment ce livre, Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi. Et elle dit notamment, je ne sais plus où je la... Oui, c'est ça. Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur d'entendre la petite phrase qui à elle seule peut faire basculer une vie, où cours-tu ? Mmh. Et elle dit, il en est qu'il accoute la fuite devant soi-même et la fuite de ce siècle devant lui-même et celle de chacun de nous. Et c'est tellement vrai. En fait, toute cette course à le vite au temps, c'est une fuite de notre intériorité. Et on court après un emploi pour gagner de l'argent, pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir s'acheter des choses. Mais est-ce qu'on est plus heureux? Franchement, quand je vois des gens épuisés autour de moi ou des gens... Alors maintenant, beaucoup en visio, je reçois des gens en visio.
Alors là aussi, nouvelle fatigue qui est lié au fait de travailler en visio. Mais pourquoi ça fatigue? Finalement, les gens sont chez eux, ils n'ont plus les transports.
Alors en fait, des études ont montré que quand on travaille en visio, on travaille plus. Parce qu'il y a la culpabilité aussi. Et puis, on est chez soi. Donc, on va faire peu de pauses. Et les études montrent qu'on travaille plus de temps. Et puis aussi, a explosé le nombre de douleurs lombaires et cervicales. Parce que les gens ne sont pas bien installés dans leur poste de travail chez eux. Et donc, cela crée des douleurs. Et c'est pas du tout la panacée. En plus, quand les gens se voient en visio, il y a un décalage. Vous voyez, notre cerveau, il n'est pas formaté pour interagir en visio. On a besoin d'interagir avec des vrais humains. En plus, quand on est avec un plan comme ça américain, il y a des gestes qu'on ne voit pas. Donc, il nous manque des informations et notre cerveau, il travaille plus. Et donc, ça nous fatigue plus. Entre autres, hein, je vous invite à lire le livre pour en savoir plus.
Bon, on fait le tour de la fatigue, hein, puisqu'on parle de la fatigue, mais on parle de la fatigue mentale ce matin avec mon invité Isabelle Métainier qui est avec nous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de la fatigue mentale ce matin avec mon invité, la psychologue Isabelle Métainier, et qui publie « Et si c'était la fatigue, la reconnaître et savoir agir pour retrouver l'envie de vivre » chez Robert Laffont. Et vous dites que finalement, cette fatigue mentale, c'est d'abord le fruit d'un combat quotidien contre nous-mêmes. C'est-à-dire, expliquez-nous.
Eh bien... En fait, nous sommes, voyez, en tant qu'être humain, nous avons un aspect de nous-mêmes où on interagit avec l'extérieur, on a besoin d'interagir, et puis il y a notre monde intérieur. Dans notre société, déjà, on nous apprend rien de notre intériorité, c'est-à-dire il n'y a pas d'éducation à notre monde émotionnel, il n'y a pas d'éducation à comment gérer nos émotions, comment on apprend pas non plus tellement à interagir, à rentrer en communication. On nous apprend uniquement à penser d'une certaine façon. On apprend, on accumule des connaissances et on nous fait miroiter qu'en accumulant des connaissances, on va du coup accumuler des biens matériels et on va pouvoir être heureux. C'est un leurre parce que, voyez, si on perd tout ce qu'on a accumulé dans une vie, qu'est-ce qui nous reste ? Et notamment à l'aube de la mort, qu'est-ce qui nous reste ? Ben, il nous reste notre connexion avec nous-mêmes, avec le sens de la vie. Quel est le sens de la vie ? Quel est le pourquoi on a vécu ? Eh bien, on s'apaise, on meurt dans l'apaisement quand on sent qu'on a aimé, qu'on a été aimé. Et puis c'est ça qui compte. et qu'on est bien, qu'on a fait son chemin, qu'on est bien dans l'axe finalement qui nous était destiné. Mais si on n'a jamais eu cette réflexion, ben on meurt seul, on meurt désespéré et on ne veut pas mourir, on s'accroche d'une manière vaine et désespérée à la vie. Et pour moi, c'est ça le vrai malheur.
Et vous expliquez que finalement, la fatigue peut venir du fait que nous n'acceptons pas d'avoir mal et que la vie fait mal par essence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer et pourquoi on devrait accepter de souffrir ? C'est un peu masochiste.
Oui, bien sûr. C'est effectivement ce qu'on me dit, c'est masochiste d'accepter d'avoir mal. Mais en fait, la douleur, quand on la ressent, qu'elle soit morale ou physique, c'est une réalité. C'est quelque chose, c'est une donnée. Si nous résistons, en fait, on rentre dans un combat qui amène à la souffrance. C'est-à-dire résister résister à la douleur, résister par exemple à la douleur d'une séparation, eh bien, c'est se condamner à ne pas faire le deuil et à ressasser encore et encore, à être dans la violence, dans le combat, dans les reproches. Et ça, c'est une souffrance. Et finalement, accepter d'être vulnérable, accepter d'avoir mal, accepter d'être touché et de se dire, ben c'est vrai que cette séparation me fragilise, me rend triste. Eh bien, à ce moment-là, on rentre dans un autre processus qui est d'accueillir sa propre expérience et qui donc, curieusement, apaise notre souffrance et qui finalement, ça passe. C'est-à-dire que les émotions, très souvent, on nous a pas appris à les gérer, on a tendance à les combattre, alors que si on apprend à les accueillir.
Non, mais c'est ça que vous expliquez. Donc, ouais. Plus on combat, plus on souffre.
Oui.
Donc, la posture de combattant, mais c'est aussi la posture sociétale qui revient à dire on est fort.
Mais
donc,
ça.
Face à la douleur, face à un deuil, face à une séparation, on fait face.
En fait, la force dont on parle là, habituellement, quand on dit quelqu'un il est fort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui ne montre pas les émotions et qui continue à faire comme si de rien n'était.
Voilà.
Alors
bon.
Qu'en réalité, il est dans une souffrance et on dit, lui, c'est un vrai de vrai, quoi. Lui, c'est bien, rien ne l'atteint, etc. Mais la force, ça n'est pas ça. Ça me rappelle le slogan de la force tranquille de
Singela.
Ouais, c'est ça, quand Mitterrand a été élu. En fait, la vraie force, c'est l'accueil de ce qui nous traverse, de l'accueil de notre expérience et qui fait qu'on est des hommes, des humains, on s'ancre dans la terre et on est debout. Faire semblant de ne pas avoir mal ou ne pas sentir, être dans le déni, mais c'est l'opposé de la force. Mais ça, en fait, nous, je sais que les psys, enfin, entre guillemets, parce que je suis aussi une humaine avant tout, quand on dit ça, on se dit mais c'est quand même bizarre. Mais
c'est un truc de psy.
C'est un truc de psy. Ouais. Mais non.
C'est facile à dire qu'à faire.
C'est ça, mais en fait oui, exactement. Et c'est pour ça que la méditation de pleine conscience, elle nous apprend à avoir ce mouvement d'accepter déjà qui on est, accepter d'avoir mal, accepter aussi nos erreurs, accepter de pas être tel qu'on aimerait être. Et ça déjà, mais ça nous apaise incroyablement.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement parce que vous expliquez que ce qui fait mal, c'est davantage notre résistance à la douleur, et c'est vrai, ça marche pour le mal de dos aussi, que le fait de l'accepter. Donc, finalement, si on est face à une séparation, déjà, on se sépare, c'est douloureux, oui. Mais en plus, on doit faire face, bonne figure devant les autres. Quel serait, d'un point de vue, on va dire, de la douleur, la meilleure façon de se comporter par rapport à l'événement qui se passe ?
Eh bien, c'est d'accepter que nos émotions nous traversent quand elles nous traversent. Quand on doit travailler, on travaille et on fait face et on y va. À condition que le soir, par exemple, on se laisse traverser par les pleurs ou la douleur de notre séparation. La séparation, elle va continuer, de toute façon, elle existe.
Mais si vous avez des enfants, par exemple, c'est compliqué de pleurer devant ses enfants le soir.
Voilà, on va pas pleurer devant ses enfants.
Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Il y a aussi ce fait de dire, bon, voilà.
Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai perdu mon frère aîné est décédé il y a quelques semaines. Et il se trouve que le jour de sa mort, j'avais annulé un mariage où je devais me rendre 2 jours après, parce que je devais aller le voir à l'hôpital, et en fait, bon, il est décédé avant, et du coup, j'ai accepté d'aller à ce mariage. Et en fait, j'ai pu vraiment traverser ce mariage, profiter grâce à la méditation de pleine conscience et à toutes ces pratiques que je prône. C'est-à-dire que...
Il n'y avait pas cette culpabilité de se dire, mon frère est mort et moi je fais la fête.
Vous voyez, j'ai fait la fête, ouais. Je me suis réjouie pour ces jeunes qui se mariaient. Et c'est un mariage qui durait 3 jours. Et donc, je dormais dans ma chambre. Et le matin, j'allais me promener et je pleurais. Et je pensais à mon frère, j'étais dans le deuil. Et puis, voilà, je m'accordais ce temps.
Donc, il faut accepter d'avoir mal.
Oui, il faut accepter d'avoir mal et surtout accepter que cette douleur, elle existe. Et que... ça n'est pas parce qu'on l'ignore qu'elle
n'existe pas.
Et qu'en fait, je pense qu'au contraire, ignorer ou faire semblant ou dénier quelque chose qui existe est le terreau de maladie. C'est-à-dire que c'est le terreau d'une fragilisation de notre organisme, une fragilisation de notre système immunitaire, une fragilisation de tout qui nous fait croire qu'on va bien, alors qu'en fait, en sous-main, on est en train d'aller de plus en plus mal et on peut s'orienter vers une dépression, vers une maladie auto-immune, que sais-je.
La force, c'est pas de résister. C'est ça qu'il faut. Qu'il faut bien comprendre, c'est que montrer bonne figure, lutter contre l'émotion, c'est pas profitable.
C'est pas la force. Ouais. La force, c'est traverser. C'est pas lutter. Je me souviens, j'avais reçu une jeune fille une fois qui avait perdu son compagnon 2 ans auparavant et elle n'avait pas pleuré. Elle me dit, j'ai pas pu pleurer parce que j'ai aidé les parents, j'ai aidé. En fait, elle avait aidé tout le monde sauf elle-même. 2 ans après, elle était à un moment donné, je lui soulève l'avant-bras, mais c'était dur comme du bois. Elle avait les mains moites. Je lui disais, mais c'est tout raide. Elle me dit, oui, je n'arrive plus à jouer, c'est tout raide. En fait, elle s'était crispée de plus en plus. Elle avait beaucoup de mal à saliver, elle était très très raide parce qu'elle s'était constamment crispée depuis 2 ans. Mmh.
D'où vient finalement qu'on ait appris à brider nos émotions et à ne pas les exprimer? Ça marche pour le chagrin aussi. On dit on va emmerder tout le monde avec ça finalement.
Ben oui, mais parce qu'on est dans une société où ce qui prime c'est le paraître, c'est l'extérieur, c'est je vais bien, tout va bien, regardez, je suis là, regardez sur les réseaux sociaux, je suis toujours de bonne humeur, je vais bien. Il y a une comment elle s'appelle récemment, il y a une en ce moment il y a un fait divers avec une Américaine qui est partie, comment elle s'appelle, une jeune Américaine qui est partie avec son ami, mais on se demande si l'ami ne l'a pas tuée. Enfin, je ne sais plus son nom, Benito, je ne sais plus. Et en fait, elle montre, regardez comme c'est super, on est dans un parc, on va faire du yoga, elle poste sur Instagram plein de choses. Et à un moment donné, on la voit, il y a une autre vidéo prise par la police, où en fait, elle est en pleurs, elle dit oui, c'est vrai, je suis un peu nerveuse, un petit peu obsessionnelle, et c'est vrai que mon compagnon, il est rentré avec ses chaussures pleines de boue, et là, j'ai pété un câble, elle l'a frappé, et il avait porté plainte. Et donc, il y a ce qu'on montre, et puis il y a la réalité de notre vécu intérieur.
Et alors, on a parlé de la lutte contre les émotions, mais ce que vous expliquez, c'est que l'épuisement mental dont on parle aujourd'hui et dont beaucoup de gens se plaignent, eh bien, c'est souvent le résultat d'une lutte sourde au plus profond de nous-mêmes.
Oui.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, parce que vous voyez, quand on est dans le déni ou quand on est dans un refus de sentir, donc de prendre en compte notre monde émotionnel, ben, ce qui se passe, c'est que il y a une part de nous qu'on bride. Et on utilise à notre insu beaucoup d'énergie pour maintenir nos traumatismes. Ou, vous voyez, tout ce qu'on a vécu dont on ne veut pas se souvenir dans l'inconscient, mais notre corps aussi est traumatisé. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui montrent que notre organisme, le nerf vague notamment, j'en parle un peu dans mon livre.
Donc c'est le nerf le plus long
du corps hein. qui vraiment... est utile pour réguler notre système nerveux, eh bien, avec les traumatismes, avec les aléas, je vais les appeler comme ça, émotionnels, en est affecté et ça a une chaîne de conséquences sur notre corps.
Si on est de plus en plus fatigué aujourd'hui, c'est aussi parce que on a usé nos capacités d'adaptation. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous sommes sans arrêt en en train de nous adapter à énormément de choses. Regardez le nouveau système informatique, les nouveaux médias. Et de plus en plus, tout change de manière très très rapide et nous devons sans arrêt renouveler nos habitudes. Or, nos habitudes, les habitudes, ça sécurise, ça induit une prévisibilité. Et quand on ne peut rien prévoir, eh bien, on est au taquet, c'est-à-dire que notre système sympathique est très mobilisé. Et donc, on est sans arrêt, en mobilisation. Et ça nous fatigue, bien sûr.
Et donc, si on n'a plus cette capacité à s'adapter, eh ben on se fatigue.
Bah oui, on s'use. Hein. On s'use et puis au bout d'un moment, on ne peut plus faire face, on ne peut plus réagir. En fait, notre capacité d'adaptation, elle nous est utile justement pour faire face, pour faire le tri de tous les stimuli, de savoir les hiérarchiser. Mais au bout d'un moment, quand on est fatigué, on n'arrive plus du tout à faire ce tri.
Et finalement, ça part de notre ventre. On verra ça tout à l'heure, parce que c'est ça qu'on a découvert récemment, le microbiote, le fameux, à l'origine de tout ça. Et si c'était la fatigue mentale, c'est le titre du livre que vous publiez, Isabelle Métainier, sous-titré « La reconnaître et savoir agir pour retrouver l'envie de vivre », et c'est chez Robert Laffont.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et Isabelle Métainier, notre invitée jusqu'à 10h, psychologue qui publie « Si c'était la fatigue mentale, la reconnaître et savoir agir pour retrouver l'envie de vivre » aux éditions Robert Laffont. Il y a une fatigue qui est particulière, hein, ce qu'on appelle la fatigue d'empathie, que les aidants connaissent bien d'ailleurs, hein, et que ceux qui ont l'habitude d'écouter connaissent. Comment on la définit, cette fatigue, Isabelle ?
En fait, à force de... On appelle la fatigue d'empathie, c'est aussi l'usure d'empathie. C'est-à-dire, à force d'écouter, on n'arrive plus du tout à se ressourcer et à prendre du temps pour soi et de l'espace à soi. Et donc, on se retourne, en fait ça se retourne contre la personne que l'on aide, que l'on est censé écouter, et au bout d'un moment on pète un plomb, quoi, on devient agressif. Et donc dans certains services où les aidants, les soignants ont beaucoup à écouter, ils savent reconnaître les premiers signes d'une fatigue d'empathie, et dans ces cas-là ils demandent à la personne de faire autre chose, de se reposer un peu pour pouvoir avoir cette disponibilité auprès des malades.
Quand on est des éponges, c'est ça ?
Quand on est trop empathique, oui, on est une éponge. L'empathie, c'est une disposition en fait à comprendre le monde de l'autre et à vraiment à le prendre dans ses bras, et donc le faire sans s'arrêter et sans temps sans espace pour soi, génère une sorte d'envahissement, on va dire ça comme ça, un envahissement de l'autre en soi-même, et au bout d'un moment on ne supporte plus, on a envie de se dégager.
Il y a l'équivalent, hein, dans le cadre personnel, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, nous expliquez-vous. Et vous expliquez que cette écoute, en réalité, est un point faible et pas du tout un point fort comme on pourrait le croire. C'est-à-dire que certains disent « Oui, mais tu sais, je suis une oreille à ton écoute, je suis à ta disposition. » Et vous dites qu'il faut faire attention.
En fait, c'est pas tant l'écoute qui est un point faible, c'est plutôt, je dirais, le discernement. C'est l'absence de discernement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, mais ça s'apprend, il faut savoir écouter, et aussi mettre des limites, c'est-à-dire que les deux s'apprennent ensemble, devraient s'apprendre ensemble. J'apprends à écouter et en même temps j'apprends à reconnaître les situations où on me demande juste d'écouter en boucle quelque chose qui est inintéressant parce qu'il ne va pas, ça ne va pas vers une solution, ça ne va même pas vers un apaisement, ça va, en fait, c'est comme un petit disque que la personne ressasse devant témoin. En fait, vous êtes juste un témoin. Et le discernement, c'est très important. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans notre société, on parle du discernement, de l'importance du discernement et de l'importance de la nuance. Et dans ce monde comme ça, un petit peu standardisé, c'est très important. Il y a les sujets, et puis il y a aussi qui parle de quel sujet, à quel moment, pourquoi. Donc il y a tout un contexte qu'il faut aussi appréhender. Et puis les mots, enfin, y a, voilà. L'écoute, c'est très large.
Oui, Et il faut être formé pour ça, parce que quand vous parlez du syndrome du sauveur, vous dites ce comportement a des airs altruistes, mais en fait il ne l'est pas, il est au contraire un mécanisme défensif pour compenser un manque d'estime de soi, une tentative pour récupérer de l'attention et de l'amour d'autrui.
Oui, quand vous écoutez, vous êtes la bonne patte, vous écoutez sans arrêt les autres, vous êtes utile pour les autres. Et puis, vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous donnez parfois votre argent, vous donnez beaucoup de choses. Et tout ça, ça fait que vous existez aux yeux des autres, donc ça a une utilité. Et si ça commence effectivement à vous ronger et puis à
vous pomper votre énergie.
À vous pomper votre énergie et même votre identité, là, c'est que vous êtes allé bien trop loin. Donc, bien sûr, il faut apprendre tout ça.
On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mais il y a une autre charge dont on parle moins, c'est la charge morale. Elle vient d'où, cette charge morale ?
Bien, la charge morale, maintenant, les femmes doivent en plus, ce sont elles qui sont chargées de l'éducation écologique des enfants. Donc, ne pas gâcher l'eau, faire un compost, faire ses crèmes soi-même pour les jeunes filles, vous voyez. Et donc, les hommes semblent moins concernés par cet apprentissage. Il y a des études qui montrent que, dans l'imaginaire masculin, cela amoindrit la virilité les hommes se sentent moins virils s'ils se préoccupent des questions d'écologie dans le foyer. C'est quand même intéressant. Et donc, du coup, les femmes s'en chargent et ça les épuise encore plus.
Alors, on va essayer de faire un lien intelligent entre la fatigue mentale et notre système digestif. Pourquoi ?
Eh bien, parce que il y a des neurones dans nos intestins, nous avons aussi des neurones dans notre cœur, et que on parle des intestins comme étant notre deuxième cerveau. Le nombre de neurones présents au niveau de nos intestins et de tout notre appareil digestif est l'équivalent au nombre de neurones présents dans le cerveau d'un chat ou d'un chien. Donc en fait, c'est très intelligent, hein, un appareil digestif. Et le microbiote, en fait, c'est notre flore intestinale, et c'est aujourd'hui on l'étudie parce que c'est des milliards et des milliards de bactéries, et c'est la richesse de cette flore intestinale qui finalement fabrique notre système immunitaire et qui fabrique notre bonne santé. Et comme il y a des interactions aussi avec notre cerveau cognitif, eh bien, en fait, par l'intermédiaire d'une nerf vague, ces deux cerveaux sont sans arrêt en train d'interagir.
Alors, vous expliquez que 80% de la communication intestin-cerveau se fait des intestins vers le cerveau.
Oui.
Et qu'il c'est important de comprendre cette interaction pour comprendre certaines fatigues. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fatigue dans cette interaction ?
Alors, ce qui fatigue surtout, c'est le fait que 80% des communications viennent des intestins, du bas vers le haut du cerveau, c'est parce que en fait c'est le cerveau cognitif après qui va traiter les informations et qu'en fait notre cerveau intestinal il a des informations précieuses à communiquer à notre cerveau du haut.
Moi, j'ai envie de savoir pourquoi, quel est l'impact finalement de notre ventre sur notre fatigue mentale.
Mais il y en a plein. Par exemple, est-ce que vous avez déjà pris une cuite, cher Philippe ?
Une cuite, il y a longtemps.
C'est ça.
J'ai fait du rugby.
Voilà. Donc, par exemple, notre foie, il est HS. Ouais. Et en général, si on vous demande de plancher sur quelque chose d'un peu intellectuel, vous en êtes incapable. Vous avez un gros mal de tête, votre cerveau est complètement embrumé. Donc ça, c'est juste une petite preuve que il y a une grande interaction entre la qualité de la santé de notre appareil digestif et de notre capacité à penser.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existerait donc une alimentation anti-fatigue ?
Alors, oui. Alors, après, bien sûr, personne n'est tout à fait d'accord, mais il y a quand même des grands accords. Le sucre, c'est à bannir. Voilà, le sucre, c'est très toxique, apparemment, ça attaque aussi nos neurones, et c'est très toxique, ça rend addict, bon bref, c'est mauvais. Ce qui est mauvais aussi, c'est l'alcool, ce qui est mauvais aussi, c'est la viande en trop grande quantité. Ce qui serait bon, ça serait les fruits, les légumes, avec une alimentation équilibrée, avec du sport, pour pouvoir aussi faire en sorte qu'on élimine. Vous voyez, quand on fait du sport, nos muscles se contractent et en se contractant, ils appuient sur certains vaisseaux lymphatiques. Mmh. Du coup, hop, on élimine des toxines et ça, c'est voilà, c'est bon pour le corps. Mais je dirais que pour le cerveau duo, le cerveau cognitif, ce qui va servir d'exutoire à trop de fatigue du cerveau, c'est le silence. C'est-à-dire, pour notre corps physique, ça va être le repos et cette alternance de repos et de sport. Pour le cerveau duo, ça va être cette alternance d'activité mentale et de silence.
Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se sont reconnus dans certains traits qu'on a abordés ce matin et qui souffrent de cette fatigue mentale? Comment est-ce qu'on la prend en charge, cette fatigue mentale? On commence par quoi?
On peut commencer déjà par instaurer un peu de silence dans sa vie. Moi, j'ai mis en place tous les matins 20 minutes de méditation pour les personnes qui veulent. On fait ça par Zoom. 20 minutes de méditation, on s'apaise, on respire. Et les gens, franchement, au bout de quelques semaines, ils voient la différence. Il y en a, ça fait un an et demi, depuis le début du premier confinement, en fait, j'ai mis ça en place. Ils voient une telle différence, mais c'est 20 minutes par jour. Alors, si on peut pas faire 20 minutes par jour, bah, on va commencer par 10 minutes par jour. Mais c'est simplement prendre un petit peu de temps. Il y a un site qui s'appelle 2minutesdesilence.com, je crois. Et donc, vous allez sur ce site, et puis pendant 2 minutes, vous faites du silence, et c'est le petit truc qui défile, et qui vous montre qu'au bout de 2 minutes, ça se met à clignoter, et donc vous avez atteint votre silence. En fait, c'est quoi? C'est respirer par le ventre, activer le nerf vague, le système vagal ventral. Donc on respire par le ventre. Si on a un jardin ou un parc près de chez soi, on fait quelques pas, 2-3 minutes, pieds nus. Moi, je fais ça tous les matins dans mon jardin, quel que soit le temps, pieds nus dans le jardin. Et puis c'est faire un peu de silence, faire des petites retraites. Vous voyez, un week-end dans le vert, voir la nature ressource aussi notre cerveau. Et donc, enfin, il y a plein de choses. Après, mais ce sont des petites choses simples: le silence, le vert, la respiration.
Et vous dites qu'on peut développer un certain sens. C'est le sens de l'orientation, reconnaissance ou OR.
Oui, c'est-à-dire être, au lieu de critiquer, être toujours dans un a priori positif, c'est-à-dire être dans une gratitude face à ce qui nous arrive dans la vie et avoir cette orientation. Je sais pas, moi je vois beaucoup de gens, ils disent « Oh, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur, il pleut ». Je dis, bah oui, mais il pleut, c'est bien pour les plantes. Bah voilà, on peut dire, c'est chouette, il pleut, c'est chouette, il fait pas beau. Ce que je veux dire, c'est arrêter d'être, vous voyez, se détendre, en fait. Finalement, l'orientation reconnaissante, c'est arriver à se détendre et à reconnaître ce qui nous arrive de bien et ce qui est bien dans nos vies. Et des fois, c'est des petites choses.
Chouette. Isabelle Métainier était notre invitée ce matin. Merci d'être venue depuis Merci. Bordeaux nous rejoindre. Vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Isabelle. Passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.